De plus en plus populaire chez les jeunes, qui représentent un tiers de ses abonnés, l'Opéra de Lille prépare une nouvelle saison qui s'annonce une grande richesse. Nous vous proposons aujourd'hui de faire connaissance avec la programmation lyrique 2011-2012, présentée par Caroline Saurier, directrice de l'Opéra de Lille.
Sept titres d'opéra cette année, quatre grands ouvrages lyriques et trois formats plus contemporains. Donc un choix très élargi par rapport à cette année où nous nous étions concentrés sur quatre grands projets. Et puis toujours un choix varié, puisque, plus varié peut-être que d'habitude, puisque nous allons du début du XVIIe siècle avec Monteverdi, comme je l'ai dit, jusqu'à la création. Également, une belle brochette de metteurs en scène français de la jeune génération, qui sont à la fois des metteurs en scène de théâtre et des musiciens ou férus de musique en tout cas, et que nous aimons bien inviter à l'Opéra de Lille, puisque ce sont à la fois des très beaux directeurs d'acteurs et aussi des artistes qui apportent une grande cohérence entre le texte et la musique. Ça a plutôt été notre marque de fabrique, si je puis dire, ou en tout cas, on a été un petit peu repérés pour ça en France, parce qu'on a aidé et accompagné des metteurs en scène de théâtre qui souhaitaient aborder leur premier opéra. Sauf cette année, où on a fait un peu une parenthèse, on a plutôt été assez british, en tout cas pour Orlando et pour Macbeth, ou dans un autre type d'esthétique en tout cas. Et donc là, je crois que l'année prochaine, on sera vraiment de plein pied dans le type de projet qui peut-être a été notre image depuis l'ouverture de l'opéra fin 2003. Donc il y en a que vous connaissez bien et puis d'autres que vous allez découvrir. Une belle brochette aussi de chanteurs. Je voulais le signaler puisque bon, vous savez évidemment qu'on choisit ces distributions avec soin, mais je dirais aussi avec succès, puisque depuis plusieurs années maintenant, certains de nos artistes ont été confirmés dans cette carrière que nous avions pressentie, avec des artistes qui sont engagés après Lille à Covent Garden, à la Scala de Milan ou au Met, qui sont évidemment les grandes références dans le monde pour en ce qui concerne la qualité des chanteurs. Donc c'est évidemment un grand honneur pour nous, un grand plaisir. Il y en a certains qu'on a vraiment fait découvrir en France, comme Brandon Jovanovic, qui était notre Werther, mais aussi plus récemment dans Les Noces, Kate Kinsey, par exemple, qui était chérubin, vous vous en souvenez sûrement. Et peut-être là aussi, bon, je ne vais peut-être pas vendre la mèche maintenant, mais Suzanne McLean, qui est notre Lady Macbeth, et qui, vous verrez, est vraiment une grande artiste pour ce rôle absolument épouvantable qui est Lady Macbeth, d'une très grande difficulté. Dont la carrière se confirme par un engagement important au Festival de Bayreuth. Voilà, donc on participe évidemment à ces débuts de grandes carrières internationales. On en est heureux, on est surtout heureux d'en faire profiter le public lillois. Aussi pour vous dire que si vous ne les voyez pas, c'est parce qu'après Lille, voilà, ils sont partis sur d'autres sphères. Et que malheureusement, on n'aurait plus la possibilité de les faire revenir à Lille. Mais voilà, on essaie en tout cas de continuer ce travail de découverte. Donc les titres, on va ouvrir la saison, comme je l'ai dit, avec un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le Rex Progress de Stravinsky, Rex Progress ou la carrière d'un libertin. Donc Stravinsky qui n'est pas très connu pour ses opéras. Il a surtout été connu pour son travail important avec la danse, Diaghilev en particulier, Le Sacre du Printemps, Petrouchka, etc. Il a écrit peu d'opéras, il a écrit Le Rossignol, qui est une plus petite forme, mais surtout un grand chef-d'œuvre qui est Le Rex Progress, qui est l'une de ses œuvres les plus jouées, parce que vraiment un chef-d'œuvre du XXe siècle, et aussi probablement parce que elle est d'une certaine veine néoclassique. Je vais y revenir, puisque c'est une veine volontairement néoclassique de la part de Stravinsky. En ce qui concerne le livret, l'histoire est aussi assez étonnante, puisque c'est Stravinsky qui, en allant visiter le musée de Chicago, a découvert une série de peintures de Hogarth, peintre du XVIIIe siècle, et qui est un peu comme une bande dessinée, raconte l'histoire d'un libertin. Et Stravinsky a eu envie d'écrire un opéra sur cette histoire. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme charmant, mais aussi très désœuvré, qui est Tom, et qui va épouser une jeune fille, Anne, dont les parents sont un peu inquiets de la voir se marier avec quelqu'un d'aussi peu responsable de son avenir. Et un personnage, Nick, va arriver et va annoncer à Tom qu'il est le riche héritier d'un oncle qu'il ne connaissait pas, et l'emmène pour aller toucher cet héritage. En fait, héritage qu'il va complètement dilapider dans les maisons de jeu, auprès des femmes, dans les maisons de passe, et tout ça pour terminer dans une maison de fous. Il perd la tête, il devient fou. Et cette histoire, c'est aussi ce personnage de Nick, qui est un personnage très, très maléfique, très malfaisant. Et on est aussi assez proche d'un rapport faustien, hein, entre Faust et Méphistophélès. Enfin, on est vraiment dans cette idée-là de Nick, qui veut surtout avoir l'âme de Tom. Voilà, donc un livret original. Et pour la partie musicale, donc Stravinsky s'inspire également de ce XVIIIe siècle. On a fait beaucoup le rapprochement entre cette œuvre et Don Giovanni, enfin Mozart d'une manière générale, mais surtout Don Giovanni, avec cette alternance, enfin ce mélange à la fois de scènes très sombres, très dramatiques, mais aussi de passages beaucoup plus légers. Et puis surtout dans cette forme d'une vocalité très chantante, et même avec des grands moments lyriques. Tom, au début du deuxième acte, a un grand air magnifique sur justement cette mélancolie qui le hante. Donc il s'explique dans un grand solo magnifique. Il y a aussi des ensembles, comme beaucoup chez Mozart. Voilà, donc une œuvre vraiment qui est autant une réussite théâtrale que musicale. Il s'agira d'une nouvelle production avec l'Orchestre de Picardie et son nouveau chef, Harry Van Beck, qu'on est heureux de saluer et de voir arriver avec l'Orchestre de Picardie, qui est à la fois un fin interprète de Mozart, mais également qui a dirigé beaucoup de musique du XXe siècle. Il est des Pays-Bas, mais il a aussi dirigé des orchestres en France. Et donc, j'ai un peu aussi choisi cette œuvre-là en fonction de cette personnalité, qui sera certainement quelqu'un de tout à fait intéressant pour mettre en route cette œuvre. Il y a évidemment le cœur de l'opéra. Et pour la mise en scène, c'est David Lescaut, donc metteur en scène de théâtre, auteur également de pièces, qui est musicien également. Et je crois que toutes ces belles qualités pourront vraiment être parfaitement mises en valeur dans cette œuvre de Stravinsky, donc, qui sera sa première mise en scène d'opéra. Voilà, donc un bel événement pour cette rentrée, un événement, je crois, qui est un peu, l'événement phare de notre saison, et qu'on est heureux de pouvoir présenter ici. Ensuite, Agrippine, au mois de novembre, on va continuer avec cet opéra de Handel, notre série d'opéra de Handel menée avec Emmanuel Haïm depuis 7 ans maintenant, avec le Concert d'Astrée. C'est un petit peu un échange de coproduction avec l'opéra de Dijon, puisque c'est l'opéra de Dijon qui va créer cette production. Nous en sommes coproducteurs et nous invitons donc l'ensemble de l'équipe à venir ici. Et vous verrez, je vais parler tout à l'heure du couronnement de Poppée, où là c'est l'inverse, la création se fera ici et les représentations du couronnement de Poppée se feront également à Dijon. C'est une bonne façon de réunir nos énergies, nos talents peut-être aussi, et puis surtout de multiplier la diffusion de nos productions, et donc de toucher un plus large public. Alors le livret, là, on est dans une toute autre histoire que précédemment. On est à Rome au 1er siècle de notre ère, et avec donc l'ère des empereurs. Là, c'est l'empereur Claudio, sa femme Agrippine, et Agrippine ayant elle-même un fils qui s'appelle Néron. Il y a également le général Otton, donc, qui fait partie de cette histoire. Et donc l'empereur Claudio est parti en campagne militaire sur la mer. Agrippine apprend que l'empereur a fait naufrage avec son bateau et donc il faut remplacer l'empereur. Et avant qu'un autre projet puisse être mené, elle tout de suite manœuvre pour que ce soit son fils Néron, qui n'est pas le fils de l'empereur, mais son fils à elle, qui soit sur le trône. Et puis, manque de chance, on apprend que finalement, il n'est pas du tout mort, l'empereur Claudio. Et donc, il faut qu'elle change de stratégie. Et il va y avoir le personnage de Poppée, la séduisante Poppée, qui est d'ailleurs un personnage historique hein, que l'on connaît, dont on a trace aujourd'hui, et qui était un personnage à la fois extrêmement séduisant, mais qu'on sait aussi un peu aux mœurs légères. Et donc on en parle dans ses opéras, et donc extrêmement séduisante. Et donc tous les hommes sont amoureux d'elle, puisqu'il y a à la fois Claudio, mais aussi le fils de Agrippine Néron, et également le général Otonée. Donc tout le monde veut épouser cette charmante Poppée. Finalement, tout ça se terminera par un happy end, où à la fois c'est Othon qui aura le pouvoir et donc le trône. C'est Néron qui aura le pouvoir et donc le trône, donc le fils d'Agrippine. Agrippine sera donc heureuse de son succès, mais Othon, pour autant, épousera Poppée, donc il sera également heureux. Voilà, donc c'est vraiment une comédie autour de ces deux personnages, Agrippine et Poppée, avec deux interprètes, Inga Kalma et Sonia Yoncheva, pour ce personnage de séductrice de Poppée, que vous connaissez, puisqu'à la fois elle était notre Vénus dans Dardanus, il y a quelque temps, et puis également parce qu'elle est venue aussi cette année à l'atelier lyrique, elle est venue aussi en concert avec le concert d'Astrée cette année, voilà, donc une chanteuse qu'on est toujours heureux de retrouver sur le plateau. Et pour la mise en scène, c'est Jean-Yves Ruff qui avait fait la mise en scène de Eugène Onéguine, qui était sa première mise en scène d'opéra ici, et donc qui continue son parcours cette fois-ci avec Agrippine et Emmanuel Haïm. Ensuite, une création. Il s'agira là de un spectacle qui s'intitule Austerlitz, un spectacle musique, théâtre et vidéo, qui sera réalisé en collaboration avec l'ensemble Ictus. Comme chaque année, nous avons donc des projets, comme vous le savez, avec l'ensemble Ictus, ensemble en résidence. Donc l'ensemble Ictus sera présent avec un comédien sur scène et une forte présence de la vidéo. C'est une œuvre qui est créée par Jérôme Combier, compositeur, que l'ensemble Ictus a eu l'occasion de présenter ici, notamment pour des concerts du mercredi, et qui travaille régulièrement déjà depuis plusieurs années avec un artiste vidéaste, Pierre Nouvel, artiste qui s'intéresse beaucoup à l'architecture notamment, et ils ont fait un certain nombre déjà d'installations, de films ensemble, vidéo et musique. Un travail tout à fait intéressant et original aussi de la part de ce compositeur qui s'intéresse beaucoup à cette relation à l'image et à l'architecture. Et ils se sont passionnés pour un livre qui s'intitule donc Austerlitz de Sebald et qui raconte la quête d'une origine, d'un personnage qui recherche son origine, son identité et qui fait tout un voyage à travers l'Europe et cette Europe fracturée, blessée après les désastres du début du XXe siècle, et qui, via ce voyage, à la fois fait des rencontres et surtout des rencontres dans des lieux architecturaux très significatifs. Et donc cette équipe de Jérôme Combier et Pierre Nouvel sont allés dans ces lieux prendre des images. Et donc ce spectacle est vraiment cette histoire d'une traversée, d'un voyage dans l'Europe à travers ces grands bâtiments architecturaux, et donc avec cette création originale. C'est une création qui sera créée au Festival d'Aix-en-Provence au mois de juillet, et donc nous sommes coproducteurs de ce projet qui sera présenté à l'Opéra au mois de novembre. Ensuite, au mois de décembre, le Tour d'écrou de Britten. Donc là, il s'agit non pas d'une proposition contemporaine, mais en tout cas moderne, et en tout cas un parfait exemple de ce que peut être une œuvre lyrique concise, à la fois du point de vue du temps et de la proposition. Il s'agit d'une œuvre qui réunit quatre chanteurs et deux enfants également chanteurs solistes, et puis un orchestre. Et c'est vraiment une œuvre qui est devenue un chef-d'œuvre incontournable également des maisons d'opéra. C'est une production de La Clé des Champs qui sera créée au Théâtre d'Arras et que nous présentons également ici. Une œuvre donc qui a été écrite par Bretton sur une nouvelle d'Henry James, qui est l'histoire d'une gouvernante qui a à sa charge deux enfants dans un manoir. Et ce manoir est hanté par le fantôme de l'ancienne gouvernante et de son amant. Donc une ambiance comme ça un peu à la Hitchcock, très suspense, un véritable suspense. Et une écriture musicale de Britton qui tient totalement en lien donc ce texte et cette atmosphère qui est vraiment une grande réussite. Ce sera mis en scène par Olivier Benezech, dont on a déjà présenté avec La Clé des Champs plusieurs projets, Cradle Will Rock et puis le Médium de Menotti également. Et donc qui va présenter mettre en scène cette opéra avec à la direction musicale Jean-Luc Tingot et son orchestre qui s'appelle Ostinato et qui est un atelier orchestre. Donc il a depuis plusieurs années créé cet orchestre avec des jeunes artistes en début de carrière professionnelle et donc c'est une sorte de formation à l'orchestre aussi pour ces jeunes musiciens, donc un projet intéressant. Et donc à noter que ce projet, parce que justement à la fois pour le livret lui-même et le fait que l'opéra ne soit pas très long, on propose cet opéra dans un cadre opéra en famille, donc avec un tarif spécifique, dans l'idée qu'il peut vraiment intéresser des adolescents. Et aussi, opération un peu exceptionnelle, puisqu'on va présenter cet opéra dans un cadre scolaire, donc destiné à des collèges et lycées, donc pour des adolescents. Donc présentation d'un opéra en tant que tel, donc présenté vraiment dans un cadre réservé à des établissements scolaires de la région, organisé bien sûr en collaboration avec le rectorat. Ensuite, au mois de février, on reste dans une veine de format contemporain, avec cette fois-ci Passion, nouvel opéra de Pascal Dussapin, qu'il avait créé au Festival d'Aix-en-Provence et qui a été repris en coproduction avec nous et recréé au Théâtre des Champs-Élysées l'année dernière et qui est mis en scène et chorégraphié par Sacha Valls. Vous vous souvenez de cette formidable Médée que nous avons présentée l'année dernière, qui était également un ouvrage Pascal Dussapin et Sacha Valls, une collaboration entre eux. Et donc on est très très heureux de pouvoir continuer ce parcours avec ces deux grands artistes, donc rencontre un peu miraculeuse entre ce compositeur et les interprètes et Sacha Valls. Donc sur scène, deux solistes, les danseurs de Sacha Valls et puis les formidables vocal consorts et ensemble moderne, deux ensembles de Berlin tout à fait exceptionnels, donc on est aussi très, très heureux de voir ici. Ensuite, au mois de mars, le couronnement de Poppée, donc qui sera cette autre production, nouvelle production lilloise que je signalais tout à l'heure, couronnement de Poppée de Monteverdi. Donc là, avec un retour cette fois-ci au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, avec ce génial compositeur qui est Monteverdi, à la fois génial dans son approche dramaturgique, théâtrale et musicale. Je crois qu'avec Mozart, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Ce sont deux très grands dramaturges musiciens. En ce qui concerne le livret, alors on avait terminé l'histoire d'Agrippine avec Poppée, donc qui avait choisi Otone et renoncé au pouvoir, qui était donc du côté de Néron. Et on retrouve ces mêmes personnages, mais alors un peu plus tard, puisque Poppée a eu le temps de changer d'avis. Et puisqu'on démarre cet opéra avec Poppée qui est dans le lit de Néron, et ce pauvre Otone qui est derrière la porte en train de se lamenter, donc puisque sa femme est partie dans le lit de Néron. Et avec, dans l'idée de Poppée, évidemment, le projet de prendre la place de l'impératrice, cette pauvre impératrice Ottavia, donc qui va se faire mettre dehors. Cet opéra sera notre donc deuxième opéra de la saison avec le Concert d'Astrée et Emmanuel Haïm, donc deux opéras baroques, mais dans deux périodes vraiment extrêmement différentes. Et la mise en scène, c'est Jean-François Civadier. Donc Emmanuel Haïm et le Concert d'Astrée retrouvent ainsi Jean-François Civadier, comme vous vous en souvenez, pour les Noces de Figaro. Et à l'issue de cette collaboration qui avait été vraiment un grand succès, ils avaient très envie de se retrouver. Et donc Poppée sera à nouveau notre charmante Sonia Yoncheva, donc le lien aussi avec Agrippine est tout fait. Et puis également, autre interprète à signaler, Max-Emmanuel Tchenchik, qui est l'un des plus célèbres aujourd'hui contre-ténors internationaux, qui est français, et donc on aura le grand plaisir de présenter dans cette production. Voilà, et retour pour terminer la saison au grand répertoire romantique avec Massenet et ce Cendrillon. Donc on avait présenté Werther il y a quelques années, donc je suis heureuse qu'on puisse retrouver cette grande musique romantique et avec cet art de la mélodie très particulier à Massenet, présenté avec l'Orchestre de Lille, avec un chef invité qui est Claude Schnitzler, grand interprète de l'opéra français, grand chef d'orchestre pour l'opéra français. Donc je suis très, très heureuse qu'on puisse l'inviter. Jean-Claude Casadesus, lui, ayant d'autres projets et lui ayant donc laissé sa place. Il s'agit d'une nouvelle production en coproduction avec Covent Garden et donc une production surtout mise en scène par Laurent Pelly. Lui aussi qui fait partie de cette jeune génération de metteurs en scène français brillants, autant qu'on connaît bien en France et aussi d'ailleurs à Lille en théâtre, mais qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion d'inviter ici puisqu'il est vraiment très souvent présent dans les très grandes maisons d'opéra dans le monde entier et donc pas beaucoup le temps malheureusement de venir ici. Donc je suis vraiment très contente qu'on puisse présenter l'une de ses productions. Il a eu des très très grands succès dans toutes ses œuvres un petit peu légères, que ce soit des opéras baroques français ou des opérettes qu'il a également beaucoup montées avec beaucoup de succès puisqu'il s'est très très bien traité à la fois ce mélange de l'opéra, de la chorégraphie et de cette légèreté typique de toutes ses œuvres. Donc là, à la fois, on sera dans cet grand opéra romantique, mais évidemment aussi féerique, hein, avec ce thème du conte de Cendrillon. Donc il s'agit d'un opéra, évidemment, qui est destiné à un public adulte, hein, qui est vraiment, encore une fois, grand opéra romantique, même s'il s'agit d'un conte. Pour autant, évidemment, l'occasion était trop belle de renouveler notre expérience qu'on a menée cette année avec l'Élixir d'amour, qu'on a proposé dans un cadre opéra en famille, donc avec une représentation plus particulièrement destinée aux adolescents et aux adultes qui les accompagnent. Et donc on va renouveler cette expérience, cette fois-ci avec une représentation donc un samedi à 18h pour des adolescents accompagnés d'adultes. Et donc si vous venez accompagné d'un adolescent, vous bénéficierez d'un tarif pour vous de 30 €, donc pour obtenir les meilleures places dans l'opéra, 30 € pour l'adulte et 15 € pour l'adolescent. Donc je rappelle hein, que les meilleures places de l'opéra sont à 64 €, donc ce sont évidemment des tarifs particuliers et extrêmement attractifs, à la fois pour que les adolescents eux-mêmes aient envie de venir à l'opéra, mais aussi que les adultes, au lieu de venir avec en couple et entre amis, pensent aussi à faire venir des adolescents, que ce soit leurs enfants ou leurs voisins ou d'autres connaissances. Voilà, donc ce sera le 26 mai à 18h. Thank you.